Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Actualité oblige, changement de programme cet après-midi dans Cœur de l'Histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Dans ce contexte sombre et lourd, nous nous sommes dit avec Fabien Namias que parler comme prévu d'Adolf Hitler n'était peut-être pas la meilleure idée. Alors nous allons néanmoins rester en Allemagne sur fond de Wagner, mais pour parler d'un chef d'État nettement plus souriant, plus léger, le romantique et fantasque Louis II de Bavière. Et si vous le voulez, nous parlerons d'Hitler demain. Et permettez-moi de remercier pour leur compréhension et pour leur disponibilité nos invités respectifs. Nous retrouverons donc demain Johann Chapoutot et nous accueillons dès aujourd'hui la biographe de Louis II, Isaure de Saint-Pierre.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Mathilde qui souhaite connaître l'origine du nom de certaines pâtisseries comme le financier, l'éclair ou la religieuse.
Ça tombe bien, nous serons exactement à l'heure du dessert.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Louis II est roi de Bavière déjà depuis 4 ans et il fait part de son intention de construire un château sur un piton rocheux, vraiment en apic sur un ravin, à l'emplacement de deux anciens châteaux forts. Ça va demander des travaux considérables. Il faut faire dynamiter une partie de la montagne pour abaisser de 8 mètres le socle des anciens châteaux. Ce n'est qu'après la construction de la route que la première pierre peut donc être posée. Quand je dis la route, il faut la voir, hein, cette route. C'est une espèce de chemin comme ça sinueux à travers les arbres. On est le 5 septembre 1869. La construction, et je devrais dire tout de suite la construction de château, c'est chez Louis II quasiment une seconde nature. Pour lui, c'est essentiel. Il n'est pas le premier dans la lignée des rois de Bavière à aimer construire. Rappelez-vous son grand-père, Louis Ier, qui a embelli Munich. Louis Ier a fait de Munich ce qu'on appelle l'Athènes du Nord. Il avait véritablement transformé sa capitale en une sorte de cité de l'intelligence avec des musées, des salles de concert, des choses absolument extraordinaires. Et puis, le père de Louis II, Maximilien, a fait relever les ruines du château de Hohenschwangau à une époque qu'on appelle l'époque historiciste où on aimait justement se replonger dans le Moyen-Âge. Hohenschwangau, ça veut dire la haute terre du cygne, tout un programme. Château dressé sur un piton boisé à 900 mètres d'altitude et qui domine des lacs aux eaux pures, aux eaux limpides. Il a fait édifier une bâtisse néo-gothique, Maximilien, sur ce site de Schwangau, résidence légendaire d'un certain chevalier du Graal appelé Lohengrin. Eh bien, c'est dans ce château que Louis II a passé une partie de sa jeunesse. Il a également beaucoup passé de temps, évidemment, à la résidence de Munich, le château des rois de Bavière, qui ressemble à un palais florentin de la Renaissance. On peut donc dire qu'il a été pétri de ce goût pour l'histoire et de ce sens du décor historique, d'une certaine manière. Louis II veut désormais faire de Neuschwanstein un grand château. On est à l'époque romantique, on est au sommet de cette époque romantique. Louis II revient à l'époque de son voyage en France. C'était l'exposition universelle en 1867 et à cette occasion, il avait visité cette ruine médiévale intégralement restaurée par Viollet-le-Duc pour en faire une des fantaisies de l'impératrice Eugénie, le château de Pierrefonds. On y reviendra tout à l'heure. Louis II, surtout peut-être, est influencé par sa profonde amitié pour le compositeur Richard Wagner et il vit littéralement dans l'atmosphère des opéras de Wagner. Il s'est créé un monde à lui en quelque sorte, un monde parallèle, un monde wagnérien. On sait qu'il ne manque jamais les représentations des opéras de son ami. Alors, au départ, il était seulement prince héritier lorsqu'il a découvert Wagner. Et il a été tellement habité par Tannhauser qu'il s'est mis à trembler de tout son corps et son aide de camp à l'époque a cru qu'il était en train de faire une crise d'épilepsie pour vous montrer à quel point il est entré, il a épousé littéralement cet univers et cette atmosphère. Et lorsqu'il est donc monté sur le trône de Bavière en 1864, Louis II a fait venir Wagner auprès de lui. Alors vous savez qu'il lui a fait vraiment ce qu'on appelle s'appelle un pont d'or. Il a payé ses dettes, il lui a assuré une rente, il lui a loué une villa sur le lac de Starnberg avant de l'installer dans une maison luxueuse d'une avenue de Munich. Louis II a protégé Wagner, il a fait même promulguer une loi qui amnistiait les anciens révolutionnaires de 1848, du printemps des peuples, tout simplement parce que Richard Wagner en faisait partie. Mais tout ça ne s'est pas fait sans quelques heurts à la cour de Munich et dans l'entourage du roi Louis II. On estime que Wagner a pris beaucoup trop d'importance. La jalousie est là, omniprésente. Le compositeur va devoir quitter la Bavière. On est à une époque où ce n'est plus très loin d'être un objet de crise gouvernementale. Hein, vraiment, vous voyez comme quoi les foucades de Louis II, ces emportements oniriques, ont des conséquences politiques, bien entendu. Alors ce château de Neuschwanstein, ce château est conforme à ce que le roi de Bavière souhaitait, grand château néo-gothique, romantique, où l'univers, l'atmosphère de Wagner sont omniprésentes, une sorte de château de conte de fées. C'est celui qui ressemble le plus à un château de Walt Disney. On est entre la Belle au bois dormant et Blanche-Neige et les sept nains, vous savez. Je me souviens de ma stupéfaction, raconte André Castelot, lorsque je vis pour la première fois se dresser en pleine montagne ce bourg romantique, théâtral, wagnérien, cette débauche de tourelles, de machicoulis, de créneaux et d'échauguettes. D'abord on croit rêver, c'est un songe réalisé, mais il s'agit d'un mauvais rêve, d'un cauchemar, d'un délire plutôt, où l'on s'étonne de ne pas rencontrer errant en haut du donjon le fantôme du roi fou. Je trouve André Castelot d'une grande sévérité dans cette approche du château de Neuschwanstein. Évidemment, si vous regardez un décor de théâtre illuminé, éclairé à la lumière du jour, sans les meubles, sans l'atmosphère, sans respirer les vapeurs d'encens qui vont avec, si je puis dire, vous pouvez effectivement trouver que tout ça n'a pas de sens. Mais il faut se replonger dans l'atmosphère du roi Louis II. Il faut partager ses rêves et vous verrez que dès lors, non seulement on n'est plus certain du tout que le château de Neuschwanstein soit raté, mais surtout on se pose des questions sur la santé mentale du roi. Je pense qu'il n'était peut-être pas si fou que cela.
Extrait de Lohengrin, l'opéra de Richard Wagner, à l'instant sur Europe 1. Richard Wagner, dont Louis II et de Bavière était le mécène. Louis II de Bavière qui est au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites partager l'univers de Louis II de Bavière, qui, on l'a vu il y a quelques minutes, avait une passion folle pour les châteaux. Il en a fait construire plusieurs et certains le prenaient pour un fou. Hein.
Oui, mais parce que, vous savez, il n'avait pas tout à fait le sens commun, au sens plus petit commun dénominateur. Louis II n'a séjourné en tout que 170 jours au château de Neuschwanstein, mais il en a fait un décor qui, aujourd'hui encore, et nous en parlerons dans un instant avec Isaure de Saint-Pierre, qui, aujourd'hui encore, fait affluer du monde entier des hordes de touristes qui enrichissent son ancien royaume de Bavière, au demeurant. Alors, il en a fait bâtir bien d'autres, des châteaux. En 1870, la date n'est quand même pas neutre, hein, c'est la fameuse guerre terrible entre la France et la Prusse, bien entendu, entre cet État qui veut devenir hégémonique, qui n'est pas encore l'Empire allemand, et puis la France de Napoléon III. Louis II décide à ce moment-là de lancer la construction d'un second château, d'un deuxième devrais-je dire, parce qu'il y en aura d'autres, celui de Linderhof. Il choisit une vallée près de la frontière autrichienne. Le pavillon de chasse est rebaptisé Maikost et Tal, Alors, vous allez dire, c'est un drôle de nom, mais oui, c'est une anagramme, en fait. Louis II s'amuse beaucoup avec, il joue avec les mots, il joue avec les symboles, et il voue une véritable passion à Louis XIV. Et, Tmeikost Etal, c'est l'anagramme de l'État, c'est moi, tout simplement. Le château est de style rococo bavarois, le moins qu'on puisse dire est que l'intérieur est assez indigeste. L'extérieur fait penser rapidement, dans le brouillard, si je puis dire, fait penser au petit Trianon de Versailles. Alors évidemment, on est très loin de la splendide pureté du petit Trianon, mais c'est à peu près la même échelle, c'est à peu près la même conception générale. Et pour cause, ce projet est là précisément pour concrétiser la passion de Louis II pour cette France et pour cette monarchie des grands siècles, Louis XIV et Louis XV réunis. Quand vous feuilletez en facsimilé, le journal de Louis II, vous voyez que presque à toutes les pages, il invoque le roi Louis XIV, il invoque le roi Louis XV, qui étaient en quelque sorte pour lui comme des modèles, comme des guides. Évidemment, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas été à la hauteur de ces modèles, mais en tout cas, il essayait de bien faire, il inscrivait ses pas dans les leurs incontestablement. D'ailleurs, il est revenu en France. Alors, il était venu, je vous l'ai dit, pour l'exposition universelle de 1867 avec son ami Richard Hornig, qui était le fils du responsable des haras royaux, on en parlera dans un instant. Pour le roi, ce voyage a été l'occasion de découvrir toutes sortes de réalisations. Je vous ai parlé de Pierrefonds tout à l'heure, mais il faudrait parler peut-être d'abord et avant tout du château de Versailles. Ce qui va pousser Louis II à bâtir un nouveau château comme Linderhof, ce n'est pas seulement son amour pour la France. Car s'il s'inspire de Versailles, en l'occurrence de Trianon, c'est peut-être aussi parce qu'il a l'intention de renforcer les symboles de son pouvoir, Louis II. Un pouvoir qui est affaibli à cette époque et qui est d'autant plus affaibli que le chancelier prussien, Bismarck, a bien l'intention de rabaisser son caquet au roi de Bavière. Ce que veut Bismarck, c'est que tous les princes et rois allemands s'allient autour de la couronne de Prusse pour créer cet empire allemand, une sorte de super-empire de 25 anciens États. Et ça, Louis II n'en veut pas. Il va résister à Bismarck et entre nous soit dit, à ma connaissance, il est le seul souverain allemand à avoir résisté à Bismarck et à Guillaume Ier. Vous savez que l'Empire allemand a été proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles, justement, le 18 janvier 1871. Tous les princes sont là présents, pas le roi de Bavière. Louis II a fait savoir qu'il avait une rage de dents et il a envoyé son petit frère à sa place. Donc c'est une période difficile pour lui. Je vous ai dit que Richard Wagner était en exil, il lui manque bien entendu. C'est la guerre entre la France et l'Allemagne, et la Prusse, qui va aboutir à la création de cet empire allemand au détriment des souverainetés allemandes. Ne parlons pas de l'état de santé de ce frère cadet, le prince Othon, dont l'équilibre mental commence à faire craindre pour sa santé. Et du reste, Othon finira interné au château de Fürstenried. Il est tout simplement malade mental, il faut le dire. Et puis il y a eu ses fiançailles, pour parler de la vie privée de Louis, ses fiançailles avec Sophie Charlotte, relation très difficile. Les fiançailles ont été rompues, et pour cause, vous savez que Louis II n'aimait pas les femmes, et il avait cette relation beaucoup plus excitante pour lui avec Richard Hornig, justement. Donc, le souverain est dans un état de tension nerveuse extrême, aggravé lui-même par des problèmes de santé. Il a dit qu'il avait une rage de dents, mais c'est vrai qu'il a une très mauvaise dentition qui engendre souvent des maux de tête. Sa vie n'est qu'une suite d'insomnies. Il va aussi subir des chutes de cheval qui aggraveront les choses. Enfin, c'est difficile pour lui, cette période. Et au moment où commence la construction de Linderhof, Louis II est convaincu que ce sera pour lui l'occasion de tourner la page, de remettre sur pied et son royaume et sa propre vie. Il va organiser des représentations théâtrales privées, tout à fait dans l'esprit d'ailleurs de la monarchie française. Il fournit lui-même les canevas d'un certain nombre de pièces. Et alors il tient à ce que l'exactitude historique soit scrupuleusement respectée. Ce qu'il voudrait, entre nous soit dit à travers ces pièces de théâtre, c'est plutôt qu'on reconstitue cette cour de France dans laquelle il finit par vivre quasiment par procuration. D'ailleurs, il va retourner à Versailles. Le 20 août 1874, le voilà de retour à Paris. Évidemment, il met un peu les chancelleries sur les dents. C'est un voyage, même si c'est un voyage privé, c'est un voyage de chef d'État. Vous imaginez bien qu'on est juste après la guerre de 70 et qu'un roi allemand qui débarque à Paris n'est pas bien reçu. La presse ne l'épargne pas. Il est accusé de n'avoir rien fait pour empêcher le conflit de 70. Il est accusé surtout de bénéficier de fonds spéciaux qui lui sont versés par Bismarck. Peu importe, Louis II est ailleurs. Une fois encore, il est dans ses rêves. Il se rend au château de Versailles. Juste trouve qu'il est au château de Versailles au moment de son anniversaire en août 1874. Et la Troisième République naissante, bonne fille, va faire donner les grandes eaux pour la circonstance. Après quoi, Louis II rentre chez lui en Bavière avec de nouveaux rêves plein la tête. Et cette fois, il a bien l'intention de faire construire en pleine Bavière un deuxième château de Versailles.
Est au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Ça se passe sur Facebook, sur la page Au cœur de l'histoire, ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand et Louis II de Bavière reviennent dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est le parcours de Louis II de Bavière que vous nous racontez cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand. Alors on vient de le voir il y a un instant, après sa visite en France, à Versailles, Louis II de Bavière a à nouveau un projet de château pharaonique.
Oui, il veut reconstruire Versailles, tout simplement. Il est animé, ce roi, d'une sorte de fièvre bâtisseuse. En mai 1878 commence donc la construction du troisième grand château, Herrenchiemsee. Louis choisit un site admirable des Préalpes, raconte Isaure de Saint-Pierre, l'île de Herrenwürth, en milieu du paisible lac de Chiemsee, le plus vaste de Bavière. Cette fois encore, Louis a voulu tout superviser, s'intéressant à chaque détail, discutant interminablement des plans avec l'architecte. Alors, on ne reconstruit que le corps central du château de Versailles, on laisse tomber l'aile du midi et l'aile du nord, hein, mais enfin quand même, c'est gigantesque. C'est tellement gigantesque, c'est même un peu plus grand que l'original. La galerie de Herrenchiemsee fait 25 mètres de plus. D'ailleurs, il y a cette scène magnifique dans le Ludwig de Visconti où l'on voit Romy Schneider interprétant son célèbre rôle de Sissi, la cousine de Louis, visitant Herrenchiemsee et partant d'une sorte de rire interminable devant l'accomplissement par son cousin de ce qui est un rêve fantasque, il faut bien le dire. Alors, entre-temps, un autre chantier a été terminé, c'est le Palais des Festivals de Bayreuth, à l'été 1876. Depuis très longtemps, Wagner estimait qu'il avait besoin d'un théâtre qui soit, en quelque sorte, un théâtre adapté au type nouveau d'opéra qu'il avait conçu. Louis II voulait l'aider, il était enthousiaste, évidemment, il voulait absolument y arriver, sauf que, inutile de vous dire que les ministres bavarois ont longtemps rechigné, traîné des pieds, ils jugeaient le théâtre beaucoup trop onéreux, et puis il leur a fallu céder. Et ils ont fini par accepter la construction de ce palais extraordinaire, de ce théâtre de Bayreuth. Louis II arrive donc pour l'inauguration, il arrive incognito, dans la nuit du 5 au 6 août, alors qu'on est en 76, hein, alors que les officiels attendent son arrivée à la gare, le train bleu et or du roi a fait halte en rase campagne, à quelques kilomètres de Bayreuth, parce qu'il avait rendez-vous avec Richard Wagner. Dites-vous que les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis 8 ans, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, c'est un grand moment, ce sont des retrouvailles, et Louis II va assister à la représentation de du Rhin, il y assiste seul. Il avait demandé qu'aucun souverain, aucun officiel ne vienne à l'inauguration pour ne pas être dérangé, pour pouvoir profiter pleinement et seul du nouveau joujou, si je puis dire, hein, de la beauté de cette salle. Et puis, il y a encore plein d'autres projets, sauf que Louis II ne va pas aller beaucoup plus loin. Neuschwanstein, à l'époque, est toujours en chantier. Bayreuth a été un gouffre financier. Herrenchiemsee concentre maintenant des dépenses phénoménales. Et en 1883, les seules dépenses consenties aux constructions, c'est-à-dire 4 millions de Deutschmark de l'époque, excèdent les revenus annuels de la caisse civile royale, de ce qu'on appellerait nous la liste civile. Le roi à l'époque ne séjourne plus qu'à Linderhof, puisque les deux autres châteaux sont en chantier. Et après la mort de Wagner, en 1883, la vie à Linderhof devient vraiment très pénible. Le roi est devenu très irascible, très exigeant, complètement paranoïaque. Il essaie de faire des emprunts pour essayer de combler les vides dans les caisses. Les travaux des châteaux sont donc interrompus, alors que lui, en même temps, est en train de faire de nouveaux plans. Il dessine des croquis pour un énorme château gothique, pour un palais chinois sur le Planzé, pour un édifice de style byzantin, etc. Il ne voit pas de limite à cette fièvre bâtisseuse. Si je ne devais plus construire, je ne pourrais plus vivre, dit-il. La suite, eh bien la suite, on la connaît. Au cours de l'année 1886, alors que le roi n'arrive plus à financer ses différents chantiers, il envisage de contracter, au surengageant les domaines familiaux de la famille de Wittelsbach, il envisage de contracter un emprunt de 40 millions de francs à 4%. Là, le conseil considère que ça devient vraiment inquiétant. On va confier une régence au prince Luitpold et le conseil de Bavière va décréter son roi fou. C'est comme ça, cette idée du roi Louis II qui est fou, vous savez. Il sera arrêté dans son château de Neuschwanstein et conduit au château de Berg le 10 juin 1886. Et puis, le dimanche 13 juin, le dimanche de Pentecôte, le roi demande le docteur Gooden, celui qui a signé sa déclaration en disant qu'il était fou, pour une promenade sans escorte. Les deux hommes s'enfoncent dans le brouillard et vous savez qu'on ne les reverra jamais vivants. Même la mort de Louis II ressemble à un final d'opéra. Même cette mort est un mystère romantique. Bonjour Isor de Saint-Pierre. Je suis ravi de vous recevoir. Merci de vous être rendu disponible alors que nous ne devions nous voir qu'un peu plus tard. Et nous allons avec vous revenir sur les méandres magnifiques de la psychologie complexe de ce roi.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Un extrait de l'ouverture de Tannhauser de Richard Wagner à l'instant sur Europe 1. Louis II de Bavière, le roi original, c'est le moins qu'on puisse dire, est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Et vous recevez Franck Ferrand, Isor de Saint-Pierre, journaliste, romancière et biographe de Louis II de Bavière et auteur du Roi des rêves, Louis II de Bavière, paru chez Albin Michel.
Comme c'est joli, le Roi des rêves, c'est exactement ça en plus.
Ça ressemble à votre titre sur François 1er.
C'est ça. Sauf que moi, ça n'était pas positif. Alors que chez vous, on sent un attachement à ce roi Louis II, qui est mort donc dans des circonstances très bizarres, disons-le. Alors on ne va pas s'attarder aujourd'hui sur la mort de Louis II, mais vous êtes d'accord, c'est un mystère quand même.
Le mystère est un peu résolu. Tout le monde parle très ouvertement d'assassinat.
Oui.
Et quand vous dites que c'était son psychiatre qui l'a déclaré fou, c'est pas lui, c'est une commission.
On
de
lui a
trois...
fait signer, le, oui, c'est ça.
Oui.
Hein.
Mais il y avait une commission de trois psychiatres qui l'ont jamais ni entendu ni vu. Ils se sont juste basés sur des petits messages pris par-ci par-là, dont certains étaient complètement des faux.
Alors,
pourquoi ?
Il faut imaginer ce conseil de Bavière complètement dépassé par les rêves et les fantasmes de son roi. C'était des gens très sobres, très austères que tous ces ministres, évidemment, ils avaient du mal à le suivre, tout simplement. Hein.
On oublie un peu quand même que une construction de château, ça coûte moins cher qu'une guerre.
Oui.
Il a économisé quand même beaucoup d'hommes, il en a donné 100 000 à Bismarck. C'était pas beaucoup, c'était moins que les autres États. Et donc il a presque économisé une guerre et il n'avait pas de cour. Ça coûte très cher une cour.
Oui, il n'y avait aucune cour autour de
Louis. Aucune cour et donc il était assez frugal. Tout ce qu'il aimait c'était aller boire de la bière avec ses copains bûcherons, etc.
Vous me disiez tout à l'heure, Isaure de Saint-Pierre, et c'est vrai que quand on va à Neuschwanstein, contrairement à ce que pense André Castelot, moi je trouve que c'est assez ravissant dans son genre. Hein, bien sûr, c'est kitsch évidemment, mais c'est un beau kitsch, on va dire. Oui. Et alors il y a cette immense salle du trône dans laquelle il n'y a jamais eu un seul courtisan.
Non.
Et il y a un appartement des femmes où il n'y a jamais eu une seule femme non plus du reste.
Exactement. c'est comme vous dites, c'est un décor de théâtre.
Oui, c'est ça.
Mais c'est un beau décor et la Bavière, c'est sa richesse actuelle. Tout le monde va ou au festival de Bayreuth, qui devait, le palais devait être à Munich. Et là, quand même, les Munichois se sont un peu fâchés et Louis II a reculé. Ça veut dire qu'il savait aussi voir quand son extravagance allait trop loin.
C'est assez étrange parce qu'on oscille toujours à son propos entre un homme qui avait parfaitement qui était sain d'esprit, disons les choses, hein, je crois qu'on peut admettre aujourd'hui clairement qu'il n'était pas fou du tout même, qui d'ailleurs avait souvent une analyse historique intéressante, qui avait cette passion pour Louis XIV et Louis XV et qui était capable d'en parler pendant des heures. Et puis à côté de ça, un petit garçon qui se fait plaisir et pour qui c'est un peu Noël tous les jours. Il y a quand même cette dimension chez Louis II.
Il n'y a pas que lui. Regardez Louis XIV, regardez Louis XV, regardez votre cher François Ier. Ils ont fait des châteaux qui coûtait encore beaucoup, beaucoup plus cher et des guerres qui coûtaient des fortunes.
Et puis surtout, on peut dire, et alors ça c'est le miracle de la postérité, c'est que finalement Louis II s'est vu donner raison par les siècles suivants, puisqu'aujourd'hui, les châteaux de Louis II de Bavière sont un des pôles d'attraction touristique les plus importants d'Europe, il faut le dire. Donc ça marche en plus. Hein.
Ça marche. Louis II, ça marche.
Oui, voilà. Alors, revenons peut-être sur sa psychologie et sur l'origine. J'ai dit que son frère, lui, était vraiment malade mental. Le pauvre était quand même...
Ça s'est déclenché après le traité de Versailles. Lui aussi avait une passion pour la France et de voir ce pays qu'ils aimaient tous les deux tellement humilié et cette grande Allemagne militaire qu'il détestait commençait à être proclamée. Othon, sa raison a complètement chancelé après ça.
Et le pauvre Othon, il a fini dans une, comme on dit, dans une chambre d'isolement. Comment on appelle ça là,
il n'était pas dans une chambre d'isolement. Il était surveillé, en résidence surveillée. Mmh. Et son frère a quand même, tant que son frère était là, a toujours veillé à ce qu'il ait une vie confortable et honorée. Mais il n'est jamais allé le voir. Il ne pouvait pas supporter la maladie mentale d'Othon, qui lui faisait très peur.
Est-ce que lui-même était affecté par un déséquilibre? Est-ce qu'on peut parler d'un déséquilibre psychique chez Louis II?
Il a quand même eu une enfance très singulière parce que il n'était pas beaucoup à la résidence. Il était surtout, mais je sais pas votre accent formidable, à Hohenschwangau, où les petits princes se levaient à 5h du matin et étudiaient jusqu'à 19h le soir. Mmh. C'était de la folie, même tout petit. Et il a été complètement privé d'amour maternel parce que...
Ah, il faut parler de sa mère, de leur mère, devrais-je dire.
Marie de Prusse était une princesse allemande psychorigide, protestante. Elle s'est convertie plus tard pour essayer de se rapprocher un peu de son fils, mais c'était beaucoup trop tard. Qui n'a jamais compris Louis II, qui était furieuse de son côté rêveur et poétique, etc.
Et disons-le, homosexuel.
Mais l'homosexualité, elle s'est dessinée quand même un petit peu plus tard. Le premier, c'était le Paul de Taxis. Mm-hmm. Ça a été son premier amour, un amour d'adolescent. Même quand il était petit garçon et que ça ne se dessinait pas encore tellement, elle l'aimait pas, elle ne comprenait rien. Elle était...
Alors qu'il y a la cousine qui, elle... à le petit grain Wittelsbach, comme on dit dans les cours d'Europe, c'est-à-dire ils sont quand même tous un tout petit peu fantasques, hein, les Wittelsbach. Ils sont extravagants, des degrés divers.
Oui.
Et elle était comme ça, si, bien entendu, elle était impératrice d'Autriche, s'il vous plaît. Elle avait une vraie tendresse pour son cousin, et c'était réciproque.
Oui, ils s'adoraient. Et on pense d'ailleurs que, on est sûr maintenant, que c'était pour la retrouver à la nage qu'il a voulu traverser ce lac de Berg. Il y avait une auberge sur l'autre rive où tout le monde parle, mais on s'est bien gardé de les faire témoigner à l'enquête policière, d'une très grosse berline attelée de très forts chevaux avec une dame très somptueuse et une suite très nombreuse qui était là depuis 2 jours et qui attendait. Et c'était... on le sait maintenant, c'était l'impératrice qui pensait qu'il n'était pas en sûreté, elle avait raison, et qui voulait l'amener à la cour de Vienne pour après peut-être l'aider à reprendre le pouvoir, mais il n'en avait pas tellement envie, au moins qu'il soit sain et sauf.
C'est curieux de voir ces deux cousins Wittelsbach, l'impératrice Elisabeth, dite Sissi, et Louis II de Bavière, prisonniers l'un et l'autre des contraintes politiques et curiales du XIXe siècle. Élisabeth essayant de fuir la cour de Vienne dans des voyages interminables et Louis II essayant de fuir ses responsabilités royales dans la création d'un univers onirique. Vous le dites, le roi des rêves, c'est un homme qui traduit ses rêves en réalité.
C'est tout à fait un poète, un rêveur, et moi je trouve que c'est attachant. Et tous deux, ils se comprenaient parce qu'ils étaient malheureux dans leur royauté très empesée quand même. C'était pas très drôle, les cours impériales ou royales au XIXe siècle.
Alors, quelle était la vie quotidienne de ce Louis II et comment a-t-elle évolué avec le temps? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Des chœurs des pèlerins Tannhäuser de Richard Wagner. Richard Wagner qui était un ami proche du roi Louis II de Bavière et on en parle cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Isaure de Saint-Pierre, journaliste, romancière et biographe.
Et auteur du roi des rêves, Louis II de Bavière chez Albin Michel. Un rêve qui était en partie musical, on l'entend là, Isaure de Saint-Pierre. La symbiose, si je puis dire, l'amitié entre Richard Wagner et Louis II de Bavière a donné naissance à un certain nombre de chefs-d'œuvre du répertoire.
Oui, quand ils se rencontrent, c'est le premier acte de Louis II de Bavière qui était roi à 18 ans. Et son premier acte a été de faire retrouver Wagner qui était en fuite pour dette, qui passait d'un état à l'autre.
Il commençait à se porter très mal, si l'on peut dire.
Il avait même rédigé son épitaphe. Il pensait que son opéra s'était joué à Paris avec un certain succès, mais il n'avait pas rapporté un centime parce qu'il avait coûté trop cher. Il était couvert de dettes. Poursuivi, il pouvait très bien finir en prison et il pensait qu'il était un homme fini. Il a 50 ans, Louis en a 18, et il voit tout d'un coup ce jeune roi qui met presque sa couronne à ses pieds et qui va lui permettre de faire cette œuvre surhumaine tout de même. Alors qu'il pensait que vraiment qu'il ne pouvait plus. Il était exténué, malade, fatigué, découragé. Et Louis lui redonne une extraordinaire vitalité. Et on peut dire que toute l'œuvre de Wagner, on la doit en grande partie à Louis II, oui.
J'aime bien la façon dont vous procédez, Isaure de Saint-Pierre, parce que comme ça, mine de rien et touche par touche, vous nous avez dit que le commerce extérieur touristique, en tout cas du Land de Bavière, était dû aujourd'hui aux constructions de Louis II. Maintenant que nous devons à Louis II une partie des grands opéras de Wagner, ça va finir par faire un bilan très positif, tout ça, somme toute.
Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Et je trouve que ses contemporains n'ont pas été du tout justes avec lui et ses ministres. Il faut dire, il leur a fait quelques coups pendables. Par exemple, il en avait assez des réunions de ministres. Et un jour, il leur donne rendez-vous au sommet d'une montagne. Lui, qui était un très bon marcheur, ça allait. Mais vous imaginez les pauvres ministres en chaussures vernies, col empesé, chapeau haute forme. Ils sont arrivés dans un état déplorable. Mais Louis était là quand même, avec ses dossiers, pour travailler.
Oui, parce que, alors ça, on l'oublie. Et on ne le voit pas du tout, quasiment pas, dans le film de Luchino Visconti, Ludwig. Mais c'était quand même un homme de dossier et c'est un roi qui suivait néanmoins l'actualité politique, en tout cas dans les deux premiers tiers, dans les deux premiers tiers de son règne. Ça se gâte sur la fin quand même, objectivement.
Sur la fin, les ministres ne l'écoutaient plus beaucoup, il faut voir ça aussi. Oui. Mais Visconti a fait un film, moi je le trouve éblouissant et esthétiquement extraordinaire, mais il le montre en roi par 12 heures, tout ça c'est pas vrai du tout, il était au contraire torturé. par son homosexualité. Il avait l'impression, parce qu'il était catholique, qu'il commettait un péché épouvantable. Quand on lit ses carnets, j'ai eu la chance de les avoir dans les mains, les vrais. Ça, c'est quand même émouvant.
Là, c'était pas des facsimilés, vous.
Non, c'était des vrais. Et on voit qu'il se fustigeait et qu'il s'est refusé à être heureux avec, justement, Richard Hornig, qui était un homme tout à fait...
Et dont il était très amoureux, il faut dire.
Oui, et qui était formidable, parce qu'il était au choix. Il était son maître de cavalerie, ce qui était une très grosse charge. Il était l'ami, le confident, l'amant. Et puis quand Louis avait un petit caprice, il disait rien, il facilitait ses escapades et il revenait. Il n'a pas détourné un centime, c'était assez rare à l'époque. Donc moi je trouve que c'était un homme très bien, ce Richard Hornig.
Parce que lorsqu'on feuillette effectivement les carnets, on voit à quel point tous les 10 jours, ce pauvre roi se fait des serments à lui-même. Plus jamais, dit-il.
Plus de caresses, plus de baisers, voilà, pureté, etc.
Et il invoque toujours Louis XIV et Louis XV, c'est curieux. Hein, comme...
Qui n'étaient pas des...
Qui n'étaient pas des modèles de vertu.
Non, on ne peut pas dire.
Mais pour lui, ce sont des modèles royaux, en tout cas, ça c'est incontestable.
Et dans la fameuse table volante de Linderhof,
la table volante, c'est une table qui disparaît dans le plancher avec tout un mécanisme qui permettait au personnel de changer le couvert sans qu'on dérange les invités, en fait.
C'est aussi parce que Louis II, avec cette très mauvaise dentition dont vous parliez, n'aimait pas qu'on le regarde manger, parce que ses dents, c'est vrai que c'était pas formidable, sans doute, comme spectacle. Mais il conviait Louis XVI et Marie-Antoinette. Et il y avait leur couvert, etc. Et il leur parlait. Mais il n'était pas dupe. Il disait, ce qui est bien avec eux, c'est que je fais un claquement de doigts et ils disparaissent. Donc, en fait, il n'était pas fou. Il avait des rêves, mais...
On a tout à l'heure.
Il se rendait compte que c'était pas la réalité.
Tout à l'heure, Anissa a employé le terme original. Je crois qu'on peut dire que c'est définitivement, c'était un original. Mais politiquement, quelqu'un qui est quand même capable de tenir tête à Bismarck. D'ailleurs, Bismarck le respectait. Il faut pas l'oublier, ça.
C'est d'ailleurs le seul État, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a résisté à l'emprise de la
Grande. Qui pouvait se
le
permettre aussi. Par la puissance et la richesse aussi, c'est vrai, la Bavière.
Quand même, il n'avait pas beaucoup de troupes. S'il y avait eu une occupation en règle, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et c'est resté un royaume jusqu'à la guerre de 14. Ça aussi, on le doit à Louis II.
Mais finalement, on va finir par croire qu'il était extraordinaire, ce Louis II.
Mais je l'aime bien.
Si vous voulez voir ce dont nous parlons aujourd'hui, la télévision va se charger de le faire. Et mon ami Stéphane Bern vous propose mardi 29 mars, le mardi 29 mars à 20h55 sur France 2, un numéro de Secret d'Histoire consacré à Louis II de Bavière. Et alors là, le sous-titre, c'est pas mal, le roi perché. Il était perché à tous les sens du terme, finalement, Louis II.
Oui, c'était à cause d'un titre de Libération qui avait pris ça. Mais perché, ça veut dire fou. Alors c'est peut-être un petit peu excessif quand même.
Oui.
C'est drôle.
Est-ce qu'on peut dire de Louis II qu'il a, en quelque sorte, fait avancer, d'une certaine manière, la connaissance de l'histoire? Parce qu'il a quand même été très, très, très pointu sur les questions historiques. Il a fait partie de ceux qui ont, les premiers, encouragé la publication de traductions de mémoires du XVIIIe siècle, etc. Enfin, c'était vraiment...
Oui, il était tellement amoureux, mais c'était surtout des mémoires toujours françaises.
Ah oui, bien sûr,
Il ne s'est pas beaucoup intéressé à l'histoire anglaise ou italienne ou espagnole. C'était toujours la France. Mais sur la France, il était totalement imbattable, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il a été, à la fin de sa vie, aussi insupportable qu'on le dit? On dit qu'il était notamment dur, voire violent, avec les comédiens qu'il convoquait pour réciter des actes entiers. Alors là, de Shakespeare, comme quoi il aimait quand même un peu l'Angleterre, de temps en temps.
Et à la fin, Guillaume Tell. Il n'était pas violent. Mais quand un comédien qui avait dû déclamer toute la nuit s'endormait et se mettait à ronfler, il trouvait ça éminemment vulgaire et il le congédiait. Mais violent, non, il n'a jamais eu de geste de violence. C'est pour ça que c'est absolument impensable de penser qu'il ait pu étrangler son psychiatre. Oui. Il n'était pas violent et ensuite il s'excusait. Et il n'était pas du tout arrogant, et en particulier avec les gens qui le servaient, il était très respectueux, tout le monde le dit. Il était charmant et très respectueux, mais il piquait des colères, oui.
S'il n'a pas étranglé et noyé son psychiatre dans ce lac brumeux de Starnberg, ça veut dire qu'il a donc été tué. D'après vous, par qui? Qui avait intérêt à le faire disparaître physiquement? On va très loin là quand même.
On va très loin, c'est son oncle. Mais son oncle était un homme quand même assez pacifique. Moi je pense plutôt que c'est son cousin qui a succédé à son oncle. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait un pêcheur qui a parlé de 2 coups de feu. Il ne faut pas oublier que tout le personnel a vu sa redingote avec un impact de balle dans le dos. Et la redingote, elle a disparu. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on demande encore que son cadavre soit exhumé pour faire des recherches qui n'ont pas été faites, ou en tout cas pas publiées. Donc tout ça est quand même très très trouble et ne figure pas dans le rapport de police.
Bien entendu.
Pas plus que la présence de l'impératrice présumée, on n'est pas sûr à 100%, mais tout concorde quand même.
Moi, je me rappelle, pour
le faire fuir. Donc.
Je me rappelle, c'était il y a 35 ans, une promenade dans les jardins de Linderhof, un orage absolument extraordinaire. On était obligés, tellement la pluie tombait drue, de se réfugier dans le petit kiosque, vous savez, le kiosque mauresque qui est à la sortie de la grotte de Linderhof. Et j'ai donc passé sous la pluie battante plus d'une heure dans ce kiosque mauresque en très petit comité. Et il s'est passé, si je puis dire quelque chose, j'ai senti la magie intime des lieux. Il me semble que ce jour-là, j'ai compris un peu Louis II. On ne peut que conseiller à nos auditeurs d'aller faire le voyage en Bavière et d'aller sur les pas de ce roi des rêves pour être capable de mieux le sentir d'une certaine manière.
C'est un écrin complètement magique. Il y a le lac, magique. Les montagnes, c'est ravissant.
Merci beaucoup Isaure de Saint-Pierre. Louis II de Bavière,
Franck.
Le roi des rêves, c'est édité chez Albin Michel.
Et dans un instant sur Europe 1, c'est un retour aux origines très gourmand que vous propose Franck Ferrand avec les origines de plusieurs desserts.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est un retour aux origines gourmand et sucré aujourd'hui, puisque c'est une question de Mathilde sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck, pourriez-vous nous dire pourquoi le financier aux amandes porte ce nom et nous expliquer l'origine du Paris-Brest, de l'éclair ou de la religieuse?
Alors, le financier, on va les prendre dans l'ordre. C'est un petit gâteau aux amandes, vous savez, qui est dû à un pâtissier qui s'appelait Lanne. Alors, en fait, ce gâteau, il n'a été que remis au goût du jour vers 1890, mais il existait déjà depuis longtemps. Il avait été inventé, figurez-vous, par les sœurs de la Visitation, les Visitandines. Alors le pâtissier en question était installé dans le quartier de la Bourse, vous me voyez venir. Donc sa clientèle se composait essentiellement de financiers, bien entendu. Et c'était une petite pâtisserie, le financier c'est toujours du reste une pâtisserie nourrissante, facile à avaler. On ne se salit pas les doigts, bref ça présente beaucoup d'avantages. Alors au départ elle était ovale cette pâtisserie, mais le pâtissier Lanne a eu l'idée de lui donner la forme d'un lingot d'or, évidemment. Alors là, le financier, on comprend encore mieux pourquoi. Le Paris-Brest, ah ça c'est un gâteau qui a été inventé en 1910 par un pâtissier de Maison Lafitte qui se trouvait donc sur le trajet de la fameuse course cycliste de Paris à Brest qui avait été fondée par Pierre Giffard, vous savez. Donc là, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi ça s'appelle le Paris-Brest. L'éclair, c'est plus compliqué l'éclair. C'est simplement, semble-t-il, parce que ça se mangeait en un éclair. Et puis la religieuse, parce que le glaçage de cette superposition de petits choux à la crème fait penser, grosso modo, aux robes des religieuses, pense-t-on du moins.